porté par Eve Martin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Aujourd'hui dans l'Amphi, je vous propose de parler du compositeur Vladimir Kosma. Vous connaissez forcément au moins un de ses morceaux, c'est promis. Et en deuxième partie d'émission, on parlera du groupe Blur. Je l'avais déjà évoqué dans une playlist sur la Britpop que vous pouvez retrouver sur radioalpa.com, c'est la playlist numéro 6. Enfin, donc voilà, j'avais envie d'en parler un peu plus aujourd'hui. Mais avant tout, voici MTME de Alexandra Savior.
just for your eyes. Did you freeze? Did you weep? Turn to gold, baby, sleep. Hey, honey mine, I was there all the time, and I weep at your feet, and it rains and rains.
On vient d'écouter Reasons to be Beautiful, The Hole. Et donc, comme je l'ai dit dans l'intro, on parle aujourd'hui de Vladimir Kosma. Vladimir Kosma, un nom qui, à lui seul, normalement, évoque immédiatement toute une époque du cinéma français. Une époque faite de comédies populaires, de films cultes, mais surtout de mélodies inoubliables. Car Kosma, ce n'est pas seulement un compositeur, c'est un créateur d'émotions, un architecte du souvenir. Né en 1940 à Bucarest, en Roumanie, Vladimir Kosma grandit dans un univers profondément musical. Son père est chef d'orchestre, sa mère pianiste. Autant dire que la musique n'est pas pour lui une simple discipline, mais une langue maternelle. Très tôt, il étudie le violon et la composition, et se distingue rapidement par son talent. Il obtient même des premiers prix au Conservatoire de Bucarest. Mais c'est en 1963 que sa vie bascule. Il quitte la Roumanie pour s'installer à Paris, un choix décisif. À cette époque, la capitale française est un véritable carrefour artistique. Kosma y découvre le jazz, les musiques de films et surtout de nouvelles possibilités de création. Il ne tarde pas à rencontrer des figures importantes du milieu, notamment Michel Legrand, qui aura une influence majeure sur lui. Très vite, Vladimir Kosma se tourne vers la musique de film, et là, tout s'enchaîne. Sa capacité à composer des thèmes à la fois simples, mémorables et profondément expressifs attire l'attention des réalisateurs. Dans les années 1970-1980, il devient l'un des compositeurs les plus sollicités du cinéma français. Son style, immédiatement reconnaissable. Kosma a ce talent rare de créer des mélodies qui restent en tête dès la première écoute. Il mélange les influences, classiques, jazz, musique populaire, toujours avec une élégance et une légèreté qui font mouche. Impossible de parler de lui sans évoquer ses collaborations avec les grands noms du cinéma comique français. Il commence notamment pour des films avec Pierre Richard ou Louis de Funès. Dans des comédies, sa musique joue un rôle essentiel. Elle ne se contente pas d'accompagner l'image, elle amplifie le comique, souligne les situations, donne du rythme. Parfois même, elle devient presque un personnage à part entière. Mais Vladimir Kosma, ce n'est pas seulement la comédie, il s'est aussi touché au cœur. L'un de ses plus grands succès reste la bande originale du film La Boum, sorti en 1980. Le thème de la bande, du film... Le thème principal, tendre et nostalgique, a marqué toute une génération. Il capte parfaitement les émotions de l'adolescence, les premiers amours, les doutes, les souvenirs qui restent. Autre exemple marquant, le grand blond avec une chaussure noire. Là encore, la musique est indissociable du film. Elle joue sur le contraste entre la légèreté apparente et l'intrigue de d'espionnage, créant un effet à la fois drôle et subtil. Ce qui rend Vladimir Kosma si unique, c'est sa capacité à s'adapter à chaque film tout en conservant une identité forte. Il ne compose jamais de manière mécanique, chaque musique est pensée comme une extension de l'histoire, une manière de raconter autrement. Au fil de sa carrière, il a signé plus de 300 bandes originales, un chiffre impressionnant qui témoigne de sa créativité et de son travail acharné. Et pourtant, malgré cette production immense, ses œuvres gardent une vraie réalité, une vraie sensibilité. Son talent a d'ailleurs été récompensé à plusieurs reprises, il a notamment reçu 2 Césars de la meilleure musique originale. Mais au-delà des récompenses, ce qui compte vraiment, c'est l'impact de sa musique sur le public, car ses compositions continuent de vivre bien après la sortie des films. Aujourd'hui encore, les mélodies de Vladimir Cosmas sont reconnaissables entre mille. Elles traversent les générations, des parents les transmettent à leurs enfants, souvent sans même s'en rendre compte, une simple note et les souvenirs reviennent. Ce phénomène n'est pas un hasard, Cosmas a compris quelque chose d'essentiel. La musique de film doit être accessible mais jamais simpliste. Elle doit toucher immédiatement tout en restant riche et travaillée. C'est cet équilibre qui fait toute la différence. Il faut aussi souligner son travail d'orchestration, contrairement à certains compositeurs modernes qui s'appuient beaucoup sur l'électronique. Cosmas privilégie les instruments acoustiques, ses arrangements sont soignés, précis, presque cinématographiques à eux seuls. Et puis il y a cette dimension émotionnelle. Chez Cosmas, la musique n'est jamais froide, elle respire, elle vit, elle peut être joyeuse, mélancolique, tendre ou énergique, mais elle est toujours sincère. Aujourd'hui, Vladimir Cosmas est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de musique de film en Europe. Son héritage est immense, il a contribué à définir l'identité sonore du cinéma français pendant plusieurs décennies. Mais plus encore, il a offert au public quelque chose de précieux, des souvenirs, car au fond, écouter une musique de Vladimir Cosmas, ce n'est pas seulement entendre une mélodie, c'est revivre une scène, un moment, une émotion. Et c'est peut-être là le véritable génie de Vladimir Cosmas, réussir à transformer la musique en mémoire. Voici donc un extrait de ma bande originale préférée, je pense, de Vladimir Cosmas, après celle de la boum bien sûr, quoique c'est ex aequo, celle d'un éléphant, ça trompe énormément. Voici Hello Marilyn, le thème principal.
Thank you.
Vous êtes toujours dans l'amphi sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Nous venons d'écouter Trans U de Fonce Dalle. On va marquer une pause musicale après laquelle on parlera de Blur. Voici Space Oddity de David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. Now it's time
d'écouter Trick Pony de Charlotte Gainsbourg. Et comme je le disais en introduction, on parle du groupe de musique Blur aujourd'hui. Quand on parle de Britpop, un nom revient quasiment immédiatement. Blur, un groupe emblématique des années 90 qui a su capter l'esprit d'une époque tout en se réinventant constamment. Pour comprendre Blur, il faut revenir au début des années 90 au Royaume-Uni. À ce moment-là, la scène musicale est dominée par le grunge américain, notamment avec Nirvana. Mais en réaction, une nouvelle vague britannique émerge, la Britpop. La Britpop, ce n'est pas seulement un genre musical, c'est un mouvement culturel, une manière de remettre en avant une identité britannique avec des chansons qui parlent du quotidien, des classes sociales, de la vie urbaine, souvent avec humour et ironie. Et parmi les groupes qui vont porter ce mouvement, deux noms s'imposent rapidement, Blur et Oasis. Blur se forme à la fin des années 80, le groupe est composé de Damon Albarn au chant, Graham Coxon à la guitare, Alex James à la basse et Dave Rowntree à la batterie. Leur premier album, Leisure, sort en 1991, mais c'est avec Modern Life is Rubbish en 1993 que le groupe trouve vraiment son identité. Blur commence alors à s'inspirer de la pop britannique des décennies précédentes et à développer un regard très particulier sur la société anglaise. Le vrai tournant arrive en 1994 avec l'album Park Life. Ce disque devient un symbole de la Britpop. Les chansons sont dynamiques, accrocheuses, mais aussi très observatrices. Blur y décrit la vie quotidienne en Angleterre avec un mélange de satire et de réalisme. Puis, en 1995, survient un moment clé, la fameuse Battle of Britpop. Blur et Oasis sortent chacun un single le même jour, Country House pour Blur et Roll With It pour Oasis. Cette rivalité devient un phénomène médiatique énorme, elle dépasse même la musique. Blur est souvent associé à une image plus artistique, plus ironique, tandis qu'Oasis incarne quelque chose de plus brut, plus populaire. Blur remporte cette bataille en termes de vente, mais surtout cet événement propulse la Britpop au sommet. Mais ce qui rend Blur vraiment intéressant, c'est qu'il ne reste pas enfermé. Dans ce succès, à la fin des années 90, le groupe change de direction. Avec l'album Blur en 1997, il s'éloigne de la Britpop et adopte un son plus influencé par le rock indépendant américain. C'est dans cet album qu'on retrouve Song 2, leur plus grand succès international, avec son énergie brute et son célèbre Woohoo. Un titre très différent de leur début, preuve de leur capacité à évoluer. Ce changement se poursuit avec 13 en 1999, un album plus sombre, plus expérimental, plus introspectif. On y sent des tensions internes, notamment entre Damon Albarn et Graham Coxon. Au début des années 2000, le groupe ralentit, Graham Coxon quitte temporairement Blur et chacun commence à explorer d'autres projets. Le groupe devient plus discret, sans jamais disparaître complètement. Et c'est justement là que l'on peut prendre du recul. Car si Blur a marqué la Britpop, leur histoire ne s'arrête pas là. Le groupe s'est reformé à plusieurs reprises, a continué à tourner et reste aujourd'hui une référence majeure à la musique britannique. Mais surtout, son chanteur Damon Albarn a poursuivi une carrière particulièrement riche. Il a exploré de nouveaux univers musicaux, notamment avec Gorillaz, un projet innovant mêlant musique et univers visuel devenu un succès mondial. Il a aussi participé à The Good, The Bad and The Queen et développé des projets solo plus expérimentaux. Finalement, ces projets montrent que l'esprit de Blur, cette envie d'expérimenter, de raconter le monde, de ne jamais se répéter, ne s'est jamais vraiment arrêté. Blur, ce n'est donc pas seulement un groupe de Britpop, c'est un groupe qui a su capter une époque, la représenter, puis s'en détacher pour continuer à évoluer. Je propose donc d'écouter un extrait de leur album Park Life. Voici Girls and Boys. You. C'est la fin de cette émission. On vient d'écouter Don't Stop the Dance de Bryan Ferry. Vous pouvez réécouter cette émission en rediffusion lundi de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.
Présenté par E.